Boulevard du Temps.
Bonjour avec le soleil, bonjour avec l'envie de boire un vin rosé dans le jardin de Monaco peut-être, mais nous allons quitter le rose, le tendre et les voitures folles pour revenir à un petit monégasque qui n'avait l'air de rien, éduqué à la dure et même pas là encore, c'était déjà à la frontière en Italie, dans une Italie fasciste, il faut le dire. Et ce petit homme-là va avoir un tic. Je ne sais pas quand ça commence ce tic, il fermera les yeux très vite. Et il va regarder le monde en clignotant, non pas seulement des yeux ni du regard, mais aussi en clignotant de l'âme. Et cet homme, à un moment donné, va se tourner vers les animaux. Est-ce que l'homme est aussi décevant que ça? Nous allons faire un tour dans cet homme-là qui s'appelait Léo Ferré. Quelqu'un, comme Prades, dit « Moi, Ferré, bah, c'était pas ma tasse de thé ». Un jour, quelqu'un a dit « Moi, monsieur, Berlioz, je n'aime pas ». Et quelqu'un lui a répondu instantanément « Oui, mais ça n'a strictement aucune importance ». Car que vous aimiez ou que vous n'aimiez pas Ferré, qu'il vous touche ou qu'il ne vous touche pas, c'est un tel monument, c'est une telle sculpture dans le mot, un homme qui a haché dans la pierre des mots pour en faire quelque chose de vivant, que ça n'a strictement aucune importance et qu'il faut le prendre comme un des événements du siècle. Et encore une fois, si vous ne l'appréciez pas trop, eh ben c'est peut-être le moment de faire l'effort d'une oreille différente. Alors, aujourd'hui, nous avons un invité, il s'appelle Henri Lambert, aumônier des artistes. Un aumônier avec un nanar, mais vous rigolez, mon bon seigneur. Oui, nous rigolons parce que je pense que Ferré avait assez d'humour, que puis en plus, il adorait cet ami-là, Henri Lambert. On va en parler avec lui de Ferré, son ami, Henri Lambert, aumônier des artistes, et aussi homme qui s'est occupé d'une école, qui a été professeur, et qui a aussi, en 1969, quelque part dans la rue Saint-Germain, Gilles, dans une école tenue par des jésuites, une grande maison, et c'était tenu d'une main de fer, voulut organiser un concert de Ferré. On s'en souvient encore dans la Cité Ardente, car la polémique fut grande, mais on racontera ça tout à l'heure. Alors, dans un instant, nous allons retrouver Ferré les yeux bandés. On vous expliquera pourquoi, mais nous l'avons dit dans la presse, lorsque l'on bande les yeux d'un anarchiste, ce n'est pas nécessairement pour le fusiller. Alors, restez bien à l'écoute, car ce que vous allez entendre dans un instant est un document. Mais avant cela, on va prendre une chanson. Et comme disait Julien Clerc, à quoi sert une chanson si elle est désarmée? Et pourtant, voilà une chanson totalement désarmée, totalement faite pour être tout en rose, tout à fait douce, tout à fait jukebox, tout à fait pour la côte ouest des États-Unis et pour les planches à voile. Et pourtant, c'est très beau, mais ça n'est pas du Ferré.
The summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there to touch your hair and walk with me. All summer long we sang a song and then we strolled that golden sand. Two sweethearts and the summer wind. Like painted kites, those days and nights, they went flying by. The world was new beneath the blue umbrella sky. Then softer than a piper man, one day it called to you. I lost you to the summer wind. The autumn wind and the winter winds, they have come and gone. And still the days, oh, guess who sighs his lullabies through nights that never end. My fickle friend, the summer wind, the summer wind, warm summer wind, the summer wind.
Il sera donc question de deux chanteurs aujourd'hui. Tous deux ont fait partie de la mafia. L'un, c'était la vraie, l'autre, c'était la mafia des mots, celle où les idées s'organisent pour être puissantes. Il s'appelait Léo Ferré. Il y a 10 ans, il nous a quittés. Et comme un véritable anarchiste, il a même fait comme les pigeons sur la République. Mourir un 14 juillet, c'était quand même pousser le bouchon un peu loin. Dans les pas de Léo Ferré est un livre qui sort aux éditions Les Trois Orangers, et ils sont trois justement, Vidal, Olivier et Lambert. Ça a l'air d'être un groupe de cyclistes, alors ce peloton s'est mis ensemble pour écrire. Henri Lambert, bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez participé à ce livre qui sort maintenant, et vous racontez vos souvenirs de cet homme que vous aviez rencontré avec une idée folle. Vous êtes professeur en 1969, mais depuis déjà quelques années, à l'église, oui, ça c'est freudien, à l'école jésuite de la rue Saint-Servais, à Saint-Gilles à Liège, et vous décidez de faire un concert avec Ferré.
Oui, bah, je décide de...
Vous donnez des leçons de français, il faut dire. Hein?
Oui, je suis prof de français, et puis je suis un professeur de rhétorique. Et j'estime que les élèves doivent être capables de discerner les choses et aborder les grands textes, quels qu'ils soient. Qu'on sorte de l'interdit, parce que l'interdit ne forme jamais personne. Et donc, cet homme m'alerte, je le sens bien, et je l'invite, et il vient. Mais avant qu'il ne vienne, il faut que je me batte avec certains parents, en tout cas avec une certaine forme d'idée préconçue de ce qu'est Ferré et de ce qu'est l'Église, en fait.
À cette époque-là.
À cette époque-là, bien entendu, 69, sommes avant le Concile. Hein.
Mmh. Alors, ça ne va pas fonctionner très bien. Par contre, vous êtes quand même assez soutenu par les patrons, par les grands messieurs de la grande maison. Ils ne sont pas contre vous.
Non, pas du tout.
Les responsables de l'école ne sont pas contre l'idée de faire un concert de cette anarchie.
J'ai eu un recteur de l'époque qui était très ouvert et qui m'a dit « faut pas lâcher ». Et nous étions d'accord tous les deux. Et donc, nous avons pris la décision d'aller au Palais des Congrès, de faire 2 concerts au lieu d'un, de faire 2000 personnes au lieu de 600.
Attention, le petit monégasque, lui, râle parce qu'il dit, il voulait chanter dans une école catho. Il dit,
mais ça l'amusait.
Ça l'amusait.
Ça l'amusait.
Alors, quand vous entrez dans sa loge, il veut faire un règlement de compte.
Et il me dit, oui, il était de très mauvaise humeur. Et alors, il avait appris que les parents, par l'intermédiaire à l'époque de RTL, faisaient paraître un petit communiqué toutes les heures disant que Ferré ne chanterait pas. Et moi, donc, j'ai fait un petit communiqué disant que Léo chanterait 2 fois plutôt qu'une. Donc, il était agacé de Et il ne faut pas oublier que nous sommes à une époque, juste après 68, où il était assez contesté, Ferré.
Et donc, il passait même par les jeunes.
Contesté même par les jeunes qui disaient, tiens, Ferré, t'es pas sur les barricades. Et donc, contesté un tout petit peu. Et voilà qu'il arrive à Liège, il est encore contesté par les parents. Et donc, ça tombe mal.
Et en plus, il va chanter pour des cathos, dis donc.
Il va chanter pour des cathos.
C'est quand même beaucoup,
et
tout
puis,
ça.
Et puis, ça tourne pas bien. Et donc, la première chose qu'il a, c'est de râler. Et puis, lisant la presse, il se dit... Mais t'es curé, toi. Alors, il y piche rien, il dit, mais t'as des emmerdes, tu te mets tout sur le dos. Pourquoi tu fais ça? Et c'est le départ de mon amitié avec Ferré. Il m'a dit, toi, je t'oublierai pas. C'est pas possible qu'on oublie quelqu'un qui fait ça. Et en fait, j'avais rejoint Ferré, ou Ferré m'avait rejoint, c'est la même chose. Hein. Nous étions rejoints sur une idée essentielle qui est le cri de l'humanité pour une liberté. Et il n'y a pas d'homme vivant sans une liberté. Et Léo était un homme qui savait qu'il fallait, et c'est ça le mot anarchie pour lui, et il fallait divine anarchie, dit-il. Tu es la seule invention de l'homme et sa solitude, et ce qui lui reste de liberté, et c'est pourquoi tu es la voix du poète.
C'est quand même l'homme qui va écrire Ni Dieu ni Maître, et là aussi, vous avez quelque chose. Comment vous voyez cette phrase-là?
Mais parce qu'une fois de plus, le dieu qui était là, c'est un dieu démiurge qui a le pouvoir.
Un dieu bourreau.
Un dieu bourreau, un dieu pouvoir. Léo concevait que le pouvoir, d'où qu'il vienne, et a fortiori de l'Église, puisqu'il puisqu'il l'avait vécu à Bordighera. On peut revenir sur Bordighera.
C'est donc l'école où il allait, en Italie, en quittant Monaco tous les matins.
Par les frères des écoles chrétiennes, qui vivaient dans la vieille église, et où on lui a tout appris à souffrir, se résigner, enfin, le contraire de la liberté.
Oui, la vallée de larmes, comme c'était...
C'était ça, oui. Donc Léo a appris chez les frères, s'il ne l'avait pas en lui, la révolte.
Henri Lambert, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous en parlez et vous êtes plusieurs. Je ne sais pas qui est Vidal ni Olivier, mais vous nous en direz un mot tout à l'heure. Le livre s'appelle « Dans les pas de Léo Ferré ». Les trois orangers, ce sont les éditions. Mais nous allons donc venir au document d'aujourd'hui, puisque vous le savez, le boulevard du temps, c'est ça. Ce matin, donc, à 9h15, Jean-Pierre Autier a reçu Mathieu Ferré, le fils de Léo Ferré. Voilà, on a parlé avec Simkovitch, Charles Simkovitch, et puis on a écouté l'émission de ce matin. Et puis, Jean-Guy aussi a été extrêmement émouvant pour ceux qui ont entendu cette émission. Mais, nous, qu'est-ce qui se passe? On vous l'a dit dans la presse. On vous l'a dit dans la presse. Mon mot vient d'être justement écrasé comme de l'huile d'olive. Lorsque l'on bande les yeux d'un anarchiste, ce n'est pas nécessairement pour le fusiller. C'est une phrase importante parce que le 16 septembre 1980, en direct, on était en direct sur l'antenne, Philippe Walsh et Georges Padez ont bandé les yeux de Léo Ferré, je vous assure que c'était absolument vrai, un beau ruban noir, et on, ainsi plongé dans le noir, entouré de décors sonores, mais que nous voulions absolument neutres. Il n'y avait pas de référence à des choses connues. C'est ce qu'on appelle la musique de library, comme on dit dans notre métier. C'est une musique qui n'est pas une musique de film nécessairement, qui ne sont pas des musiques existantes ou qui collent à une idée déjà. Ferré va inventer une histoire, mais par évidence, c'est psychanalytique. Vous entrez en vous. Et vous allez, je vais vous demander de me monter un peu le son, surtout au début, parce que tout de suite, il est dans l'introspection et il va vraiment se parler à lui-même. Alors je vais demander à Henri Lambert de... Est-ce que ça va maintenant au niveau du casque? Oui, vous entendez mieux?
J'écoute.
Voilà. Je vais demander à Henri Lambert de bien écouter parce que comme c'est éminemment de l'introspection, il va bien sûr après nous dire un peu ce que ça évoque pour lui, ses souvenirs de Léo et ce qu'il va retrouver de Léo dans cet enregistrement. Donc il faut aussi se rappeler que Philippe Walsh était un homme assez fabuleux, qui était, comme je le disais, l'homme, je lui disais, trop, je suis sur le pont de Brooklyn à 4h30 dans une voiture de location, trouve-moi la musique qui va avec. Et il la trouvait. Et il avait avec lui des grosses valises et des musiques, et je pouvais lui demander ce que je voulais, il avait toujours la musique qui allait dessus. C'était assez fabuleux, il avait un talent assez fou pour ça. Il nous a quittés trop tôt, parti par une horrible maladie, n'est-ce pas? On la connaît, celle-là. Et j'espère qu'il nous écoute, lui aussi, là-haut, s'il y a un là-haut, ça, c'est à Léo qu'il faudra le demander. Et peut-être à Henri Lambert. Philippe Walsh, évidemment, a choisi des musiques en sachant que c'était Léo Ferré, mais je ne le soupçonne de rien. Je crois que tout simplement on va laisser maintenant les choses se faire. Écoutez bien, surtout au début, parce que c'est un peu difficile, mais c'est ça le direct. Voilà, nous sommes, je le rappelle, en 1980. Nous sommes le 16 septembre et en direct, Léo Ferré écoute les musiques et les yeux bandés invente une histoire.
Proposition faite par Philippe, Léo Ferré, un escalier pour le cauchemar, un escalier pour le rêve, un escalier pour une déchirure. Nous renvoyons les trois musiques. Oui.
C'est une plage. Je suis là, comme je suis, habillé, comme je suis habillé en noir. C'est ce qui me fait peur. Ce calme. Et cet être, cette chose, je sais pas, vient vers moi. Et je lui dis qui êtes-vous. Et j'entends, je suis l'ennui. L'ennui. Et comment c'est fait l'ennui? Eh bien, c'est fait comme moi. Et ce que tu viens faire, que tu me veux. Et je te veux. Regarde là-bas. Tu vois? Il y a une sorte de déclivité là-bas au fond, tu vois. Du côté de cette dune un peu rousse. Comme moi, regarde. Et je m'aperçois. Alors que c'est une femme comme il doit exister des femmes ailleurs. Et même quand je dis ailleurs, ça me gêne parce que c'est un mot d'homme, un mot de chez nous, et puis je sens qu'il faudrait que je dise autre chose. Non pas ailleurs, mais à bras perdus, je ne sais pas. Alors, je me sens traîné dans l'ombre de cet ennui qui est une personne. Et je suis mal à l'aise parce que je suis obligé d'employer des mots. Et alors, tout d'un coup, je me mets à parler comme ça, mais comme on doit parler dans un endroit qui n'est pas le mien. Et même, je n'ose pas dire une autre planète. Non, c'est pas ça. Alors je fais. Et je sens qu'il y a un rapport entre moi et cette. Voyez-vous, je dois employer les mots. Cette personne est pourtant. Ça n'est pas ça. Alors je fais ah ouais,
par la vie, tous, 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 tous.
La mort aussi. Tu veux boire? Oui. Merci.
Un escalier pour le rêve avec Léo Ferré. Est-ce que la terreur s'en est allée, Léo, ou c'est une nouvelle terreur? Est-ce que ce qui vient de se passer là est une expérience intéressante?
Je sais pas. Vous savez, vous demandez des choses terribles quand même. Pourtant,
vous avez joué le jeu.
J'ai joué le jeu.
Vous avez choisi le mode du chuchotement. En plus, moi, j'étais à 12 cm de vous et je ne vous entendais pas. Le micro, lui, plus sensible, et l'amplification des choses, la musique.
Je peux pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous savez, il faudrait changer.
Vous avez trop joué avec les mots?
Non.
Les souffles?
Non, il faudrait pouvoir se taire, enfin. Et parler à l'intérieur de soi avec un vocabulaire auquel personne ne comprendait rien. Puis au fond, les cris, la prière dans la voix, ça n'est pas dans le dictionnaire.
Escalier pour le rêve en compagnie de Léo Ferré. Je dis en compagnie.
Une onde noire, un faux drapeau de 68, tout éclaire dans leurs gestes, ils t'apportent la guerre. Ils passent dans la rue, ouvrent leurs déshabits, ils y coûteront dessus, leur ouverture est claire.
Cet enregistrement faisait partie de l'émission de 1980, mais malheureusement, la bande s'est arrêtée, la copie s'est arrêtée. Alors nous allons fondre ici, parce qu'autrement, ça va s'arrêter comme au bord d'un précipice, et ce serait dommage. Il en était peut-être un peu question de précipice dans cet étonnant chemin escalier pour le rêve. C'était le mot que nous lui avions donné en 1980. Je rappelle, Léo Ferré a les yeux bandés, on lui propose des musiques qui n'ont aucune référence, et devant vous, Brut de décoffrage, c'était en direct. Il invente une histoire, alors avec qualité et défaut, je veux dire, elle est exactement comme elle est passée à l'antenne ce jour-là. Alors Henri Lambert, vous qui avez connu cet homme-là, qu'est-ce que ça vous inspire d'entendre Léo aller aussi loin dans l'intérieur de lui-même?
Oh, ça ne m'étonne pas du tout, ça ne m'étonne pas. Ce que je ressens le plus dans ce que je viens d'entendre, c'est l'angoisse de la création. Il semble que je retrouve l'angoisse de la création chez Léo. Quand j'y angoisse, ça veut dire la manière dont on est capable de descendre loin en soi, y rencontrer, comme il dit très bien, l'ennui, la mort, le mot est important, pour que naisse sur ses lèvres et dans sa parole, j'ai bien compris, une prière.
Oui, il l'a dit, oui.
Donc, je ne prends pas ça comme
c'est pas une récupération.
C'est pas une récupération. Mais une prière, c'est important. C'est un besoin qui est dit en parole à quelqu'un d'autre, pour être exaucé dans le retour. Et je crois que la création, dans son angoisse, si elle descend très profondément en elle, c'est pour un jour revenir vers l'autre et attendre de l'autre une réponse. Et ce que Léo attendait. S'il a si longtemps couru après les foules, ce n'est pas par orgueil. C'est pour avoir, à son tour, un mot, une prière, une action, quelque chose qui lui disait en retour l'amour. Je raconte l'histoire parce qu'elle est amusante. La dernière fois, il est venu à Liège, il était déjà un peu... Il avait son papier, il perdait sa mémoire, et le temps qu'il retrouve sa mémoire, quelqu'un avait crié du fond de la salle, « Vas-y, Léo, on t'aime !» Et je m'étais dit, à ce moment-là, voilà ce que Léo a cherché, ce que nous cherchons tous d'ailleurs. Ce qu'il a cherché profondément, au risque de connaître l'angoisse, de connaître l'exil intérieur et de connaître la souffrance de la création. Mais il était capable de le faire.
Alors, il faut de mon idée de faire de la psychanalyse à bon marché. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il sort instantanément de l'eau. Bon, pour tout psychanalyste ou primal, c'est bien sûr une naissance instantanée. Je veux dire, sortir de l'eau, c'est la symbole même du ventre maternel, Mare Nostrum, la mer. Qu'est-ce qu'il trouve? Une femme. Il trouve une femme et une plage propre, blanche, pure. Et pourtant, cette femme a l'air d'être plutôt dans son dos que devant. Et ça lance comme l'ennui. L'ennui. L'ennui, c'est donc le vide, c'est rien, c'est cette peur que rien n'est encore fait, donc l'ennui, c'est quand il n'y a encore rien, puisque nous allons tout faire dans notre existence pour combler l'ennui, pour justement qu'il ne le soit plus. Nous allons voir nos amis, nous allons faire des fêtes, nous allons inviter un ami à boire un verre, pour justement éviter l'ennui. Nous aurons un téléviseur, nous écouterons la radio, nous prendrons des livres, on fera tout pour ne pas être face à l'ennui. Donc c'est très étonnant, et puis soudain, il y a quelque chose de là, encore plus primal, c'est ce langage inorganisé, qui est pratiquement infantile, à la limite. Mais attention, hein, ne faisons pas ici la psychanalyse de Léo Ferré, je ne suis pas psychanalyste, mais ce sont des signes psychanalytiques très étonnants et très instantanés. Alors, et à un moment donné, il y a un Léo, qui est une sorte de cri, et qui est presque un Léo, c'est assez étonnant, voilà. Voilà, je rappelle que c'est un document...
Ce Léo me paraît intéressant parce que...
Léo, il dit à un moment
donné. Oui, Léo, oui. D'abord, il y a deux choses. Il y a cette parole que nous ne comprenons pas, mais qui est sa parole à lui. Il y a une forme d'incantation intérieure qui est là, et qui, à un moment donné, va se révéler. Et par ailleurs... Je perds mon idée. Par ailleurs, je voulais dire quelque chose. Par ailleurs, il parle de la nuit. Et il n'y a pas simplement que l'eau qui est intéressante, mais la lumière.
La lumière.
Et si donc Léo a pendant toute sa vie cherché à l'intérieur de lui une forme de pureté, et c'est l'eau.
Tout à fait.
Il cherchait à travers le noir le blanc. Et voilà que tout d'un coup, dans la nuit, il cherche la lumière.
Tout à fait.
C'est tout à fait Léo. Je veux dire. C'est la position la plus claire de cet homme qu'on a pris pour un gueulard et un anarchiste, et qui était un homme qui cherchait dans la vie, à travers les difficultés de la vie, à travers les cris du monde et la misère et la justice, et sa propre fragilité, cherchait la lumière. Et voulait la dire aux hommes, voulait la révéler aux hommes.
Vous le rencontrez donc en 1969, et votre amitié va perdurer, puisque le jour, il y a 10 ans, le 14 juillet 1900, je ne sais déjà plus, je ne compte pas d'ailleurs, ce jour-là on ne les compte pas, mais faites 10 ans.
Non, il y a 10 ans, 93.
93. La seule personne qui est à Monaco, devant la tombe, prendra la parole, ce sera vous, et on va y revenir si vous le permettez. Mais avant ça, vous avez choisi, vous avez demandé que l'on passe un disque, la musique de Ferré. Nous, on ne voulait pas en mettre trop ici, on voulait rester sur la parole, parce qu'après, je vous signale que ça continue après nous. Et dans Presse Citron, Régine Dubois fera, je dirais, tout un chemin tout à fait musical. Et là, ce ne sera que de toutes les chansons de Léo, donc ce sera une autre affaire, ça nous suit. Alors, maintenant, vous avez choisi quelque chose, et c'est le prof de français qui...
C'est le prof de français qui a pris la langue française. C'est une chanson qu'on n'entend pas souvent, mais qui chantait volontiers. Léo, donc, était un homme qui réagissait au quart de tour sur ce qu'il entendait, ce qu'il voyait. Et hop, il partait en guerre. Et voilà que d'un coup, il se rend compte qu'il n'y a plus que des mots anglais dans la langue française. Alors il dit quoi, la langue française, bof. Et donc il a fait une chanson...
Mais ça a 30 ans, ça, faut
ça
pas
a 30 ans, donc, c'est ça pas a 30 ans. Mais je veux dire,
ce n'est pas que l'informatique qui a mis
le
désordre.
Il n'y a pas que l'informatique,
hein,
mais donc la chanson est intéressante, parce qu'il y a tous les mots anglais, et puis il y a l'humour de Léo, et puis il y a le rythme de la musique, parce que c'est aussi un grand musicien, écoutez-le dans la variété, comme il est beau.
C'est une barmaid qui est ma darling, mais into bed c'est mon travelling, mon best-seller et mon planning, c'est mon starter after shaving. Je suis son parking, son one-man show, son fuel, son king, son slip au chaud, rien qu'un petit flash. Au 5 o'clock, j'paie toujours cash dans le bon Dieu scope et j'cause français. C'est un plaisir. C'est ma starlette, ma very good, mon pic galette, mon Hollywood. C'est ma baby au Forty for two, c'est ma lady, oh, un toutou. Je suis son jockey, son steeple chase, c'est la drivée à la française. Dans le sleeping car, after paillasse, à son milk bar, je me tape un glace et j'cause français. C'est un plaisir. Et ma call girl, ma savourex, qu'efface sa gueule à coup de Kleenex, c'est ma Lucky, c'est ma Palmal, ma Camel qui fait ça pas mal. Quand c'est ok, on fait le remake. Quand c'est loupé, on fait avec. J'y fais le mohair et la syntaxe. Très rock in chair, je shoot relax et je cause français. C'est un plaisir. C'est une barmaid qu'est ma darling, mais in the bed, c'est du forcing, c'est du pam-pam, à chaque coup de gong, c'est plus une femme, c'est un ping-pong. Quand je suis out, elle me sex appeal, et dans le blackout, je smash facile sur son standing in extremis. Je fais du pressing au self-service et je cause français. C'est un plaisir. C'est mon amour, mon coquelicot, mon petit bonjour, mon petit oiseau. And je speak French. C'est un plaisir.
Léo Ferré, donc 10 ans déjà, et aujourd'hui la première. Salut Léo Ferré, salut Ferré tout simplement, parce qu'il y a quelque chose de très beau dans ce nom, c'est presque bijou, les Ferré, c'est connu. Mathieu Ferré, le fils, sera tout à l'heure en compagnie de Régine Dubois, et Régine va parcourir avec lui la carrière de Léo. Les débuts, les poètes, 1968, Ferré la musique, enfin tout cela, c'est pour tout à l'heure. Mais revenons-en à cet homme, né quelque part à l'ombre d'un rocher, né sur une pointe, né avec un pied sur une Italie qui faisande à ce moment-là, qui ne va pas bien à cause d'un monsieur extrêmement orgueilleux et pansu, une sorte de pantin, mais un pantin redoutable, qui s'appelle Benito Mussolini. Et puis, il y a aussi à deux pas un pays proche, mais qui n'est pas celui-là, qui est la France. Et cette France-là, elle parle français, elle cause français, mais il est monégasque, il ne faut pas l'oublier. Alors, c'est très curieux, parce que ce petit homme-là va devenir cette chose-là. Je dis cette chose, parce qu'on ne sait par quelle boule prendre. Et à un moment donné, on va d'ailleurs lui reprocher. Il touche à tout, il dirige des grands orchestres. Est-ce qu'il n'est pas orgueilleux? Est-ce que ce n'est pas démesuré? Mais votre chemin va durer quand même quelques années. Vous allez parcourir cette amitié longtemps, mais pas en voyant tout le temps, je veux dire, ce sera épisodique. Henri Lambert, je rappelle que vous étiez aumônier des artistes et que vous étiez professeur et que vous êtes donc jésuite, il faut le rappeler de temps en temps dans cette émission pour qu'on sache bien qui vous êtes. Alors, votre amitié, elle se pratique comment? Des grands moments que vous avez eus avec
lui? Oui,
lui,
c'est ça.
Des bavardages, des discussions?
Oui, mais lui, on savait aussi, quand on était ensemble, se taire. Il avait un cri quand il était sur scène, quand il était avec quelqu'un qu'il aimait bien, il savait se taire. Hein. On pouvait marcher, se taire et rien dire. Et puis il se retournait vers moi et dit, t'en penses? C'est comme si on avait parlé et on avait parlé. Je veux dire, il y a nous avons eu des moments uniques, je crois qu'il m'a dit des choses sans me les dire. On n'a pas parlé beaucoup métier ensemble. On parlait ce qu'il ne pouvait dire à personne, ce qu'il n'avait pas envie de dire. Je veux dire, c'est...
Attendez,
ces mots de tantôt qui ne disent rien, qui disent tout, hein.
Oui, on peut tout imaginer. Mais, encore une fois, est-ce que vous n'êtes pas en train de me faire une sorte de passe de toréador en me disant, c'est un peu de la confession, j'ai pas envie de vous en parler, c'est un peu ça que vous me dites ou pas?
J'ai simplement voulu dire que c'était un ami, que je ne l'ai pas connu comme au moyen des artistes, je l'ai connu comme ami. Mais c'est vrai qu'il me parlait des problèmes que l'Église lui avait posés dans sa révolte, puisqu'il en parlait.
Le jour où il va disparaître, vous recevez dans la nuit un coup de téléphone. Qui vous appelle ?
Marie-Christine, sa femme.
Et qu'est-ce qu'elle vous dit ?
Me dit, Léo est mort, j'ai besoin que vous veniez.
Et pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'elle veut que vous soyez là ? Il y a assez de curés en France, il y a assez d'amis.
Oui, elle sait que Léo m'aime bien. Et elle me dit d'ailleurs à l'appareil, Henri, il faut que vous veniez, Léo vous aimait tellement. Il faut faire quelque chose à son enterrement, il ne peut pas partir comme ça.
Il a été baptisé, donc
il avait été baptisé, et c'est d'ailleurs pour ça que sa sœur voulait qu'on dise quelque chose sur sa tombe.
Alors vous avez une réaction, vous dites, mais enfin, est-ce que c'est...
Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que je vais faire, et je questionne pour voir ce qu'elle attend de moi, et elle me répond, oh, vous savez Henri, Léo vous aime tellement qu'il vous pardonnerait, tout.
Alors, je vous ai demandé si vous pouviez lire les mots que vous aviez dit ce jour-là autour de la tombe, et vous vous avez dit non, je ne peux pas parce que ce genre de choses-là, et je vous comprends très bien, on les dit une fois, on peut les écrire parce qu'il se fait c'était dans l'intimité, mais un journaliste, un de nos confrères de RTL, avait mis un petit micro et il n'avait d'ailleurs pas tout eu. Et par honnêteté, vous avez comblé, vous avez répété les quelques derniers mots pour qu'il l'ait, et c'est ainsi qu'on a sauvé ces paroles que vous avez, je dirais, créées au moment même. Ce n'est pas très long. Si vous permettez, moi, j'aimerais quand même que l'on dise la seule personne qui ait pris la parole là-bas sur ce grand trou où se trouvait Léo Ferré. Je ne partageais pas tout avec Léo, bien sûr, mais j'étais son ami. Et si j'étais son ami, c'est parce que nous avions en commun un amour immense de l'homme. Il s'est battu toute sa vie pour la justice et a donné une grande vision de l'homme, ce dont je le remercie. Il refusait d'avoir un maître. Il a rencontré aujourd'hui un père. J'espère que là-haut, il fera un bœuf infernal avec Brel et Brassens et qu'il fera tomber sur le monde une pluie de justice et d'amour. Enfant de Dieu par le baptême, Léo a toujours défendu la vie et la liberté. Devant cet homme que l'on a parfois pris pour un mécréant, moi, prêtre, je m'incline. Comme je suis son ami et que je suis prêtre, permettez-moi maintenant un geste qui m'appartient. Bénir ce corps qui a tant vécu et qui a tant dit. Je comprends que vous n'ayez pas envie de le redire aujourd'hui. Et moi aussi, en le lisant, j'ai un petit peu de cette émotion, mais sans doute bien moins forte que la vôtre. Alors voilà, cet homme est parti, et je vous l'ai dit, adoré ou détesté, mais n'est-ce pas le propre des talents immenses que d'être adoré ou détesté ? Si vous n'êtes détesté par personne, c'est plutôt inquiétant. Je veux dire que lorsqu'on fait un métier comme le nôtre, et qui n'a pas l'envergure de Ferré, on n'est pas connu à travers l'Empire de la langue française, on est connu dans notre quartier, c'était déjà pas mal, mais la première lettre d'insulte que l'on reçoit vous fait très mal et vous pleurez. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un cadeau prodigieux. Merci tout au long de cette carrière aux quelques lettres d'insulte que j'ai reçues, car c'est simplement la preuve que j'existais un peu. Je crois que ça, c'est une chose que je vous dis parce que je pense. Mais j'aimerais que vous racontiez cette histoire d'une dame qui vient devant lui. Racontez-la, l'histoire de...
Vous savez l'histoire qu'il a racontée, mais je la raconte pour dire à quel point Léo était... On a parfois dit Léo était un violent. C'était un homme violent dans son verbe, parce qu'il voulait aller vers les autres et les déranger. Mais Léo était un amour d'homme. Et un jour, il a rencontré une dame qui lui a dit « Vous êtes Ferré ? Je vous aime pas. » Et elle a craché.
Craché par terre, oui.
Alors Léo s'est mis à pleurer. Il a dit « Qu'est-ce que je lui ai fait ?» Et je remets ça pour Léo pour dire à quel point c'était la tendresse même. Hein.
C'était pas du tout. Je crois que justement il y avait un tas de sacs de sable qui étaient des mots violents et derrière il y avait la tendresse.
Il y avait la tendresse. Et sa tendresse à lui, c'était l'amour de l'autre.
Je rappelle que le livre que vous co-signez avec M. Vidal et M. Olivier, Henri Lambert, s'appelle « Dans les pas de Léo Ferré » aux éditions Les Trois Orangers. Donc dans un instant, nous allons entrer en résonance avec Presse Citron et là vous retrouverez les vibrations de toute une vie. En compagnie d'ailleurs et par téléphone de Mathieu Ferré, Régine Dubois vous accompagnera là dans la musique de Léo. Vous vouliez encore dire quelque chose ? Vous aviez mis un petit post-it quelque part ? Parce que l'heure avance. Vous avez...
Mais on doit passer maintenant.
Non mais il nous reste encore quelques instants, allez-y si vous voulez encore ajouter quelque chose.
Mais la musique, justement, ce qu'on a choisi pour terminer,
d'accord,
c'est de la musique.
Tout à fait.
Je voulais simplement dire qu'il ne fallait pas oublier que Ferré était un immense musicien et qu'il avait donné aux autres le goût de la poésie. Non seulement parce qu'il était poète, mais parce qu'il a révélé de grands poètes. Il a écrit sur Rudebeuf, il a écrit L'ami de la musique sur Rudebeuf, Baudelaire. Et vous allez entendre maintenant, pour terminer, une musique de Ferré sur un très très beau texte de Rimbaud, la chanson de la plus haute tour.
Oisive jeunesse, à tout asservie par délicatesse, j'ai perdu ma vie. Ah, que le temps vienne où les cœurs s'éprennent, je me suis dit laisse, et qu'on ne te voie, et sans la promesse de plus haute joie, que rien ne t'arrête. Auguste retraite, j'ai tant fait patience qu'à jamais j'oublie craintes et souffrances. Aux cieux sont partis et la soif malsaine obscurcit mes veines. Ainsi la patrie à l'oubli livrée grandit et fleurit, dansant et d'ivraie au bourdon farouche de sang sale mouche.
Grand merci à ce vieil ami qui est Henri Lambert, que je connais depuis fort longtemps et à qui je vole de temps en temps des plumes avec, j'espère, la même tendresse qu'elle a fait Léo. Et une pensée aussi très émue pour un long ami qui s'appelait Hubert Grotteclaas et qui a croqué, qui a avalé, qui a mangé photographiquement Ferré. C'était sublime. Salut à vous tous. Bon vent là-haut, on arrive.
Par délicatesse, j'ai perdu.